Attention, 30 secondes avant départ. Vous n'oublierez pas, bien sûr, de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent au bilan des Jeux paralympiques de Paris 2024. 4400 athlètes et presque autant de handicaps. Les sportifs sont rassemblés sous trois catégories: handicap physique, déficience visuelle et handicap mentaux. Pour garantir l'équité dans les épreuves, les athlètes sont soumis à une classification. Le principe est simple: à travers un examen par un médecin ou un technicien du sport concerné, on évalue l'impact du handicap sur les performances de l'athlète. Si tous les sports paralympiques sont régis par ce système de classification, celui-ci est différent pour chaque sport. Les aptitudes physiques demandées ne sont pas les mêmes et un handicap n'affectera pas un athlète de la même façon selon le sport pratiqué. Dans chaque sport, les classes sont désignées par une lettre pour la discipline et un chiffre pour le degré de handicap. Plus le handicap est important, plus le chiffre est bas. En athlétisme, les catégories de 11 à 13 représentent les handicaps visuels, la catégorie 20 les handicapés mentaux, de 61 à 64 les amputés des membres inférieurs et les catégories T51 à T54 celles des courses en fauteuil roulant. Pour les sports collectifs comme le basketball, fauteuil, un nombre de points est attribué à chaque joueur en fonction de son handicap et chaque équipe doit respecter un total de points à ne pas dépasser pour pouvoir évoluer sur le terrain. 14 points pour le basketball fauteuil. Les personnes affectées d'un handicap auditif ou cardiovasculaire sont exclues des Jeux paralympiques. À l'opposé, les athlètes trisomiques n'ont presque aucune chance de se qualifier, leur performance étant inférieure. 549 épreuves ont été au programme des Jeux paralympiques de Paris 2024, selon les catégories ou les distances, par exemple, réparties sur 23 sports. Par exemple, pour les Jeux olympiques, pour les valides, 329 épreuves pour 32 sports. Pour la natation, aux Jeux olympiques, 37 épreuves pour 852 nageurs. Et aux paralympiques, toujours pour la natation, 141 épreuves, 4 fois plus, pour 605 nageurs. Le terme générique est le parasport, qui inclut le handisport et le sport adapté, généralement employé pour désigner la pratique sportive des personnes présentant un handicap physique ou sensoriel. Les sports ne sont pas tout à fait les mêmes qu'aux Jeux olympiques. Certaines disciplines se trouvent dans les deux, comme les épreuves de natation ou d'athlétisme. Certaines doivent en revanche connaître des adaptations, c'est le cas du cécifoot ou du rugby fauteuil par exemple. Deux sports sont spécifiques aux Jeux paralympiques. La bokia, pratique s'apparentant à de la pétanque, et le goalball, mélange de football et de ballon prisonnier. D'où viennent les Jeux paralympiques? Un peu d'histoire. Les Jeux paralympiques existent depuis 64 ans. La première édition officielle des Jeux paralympiques s'est tenue en 1960 à Rome, mais ces Jeux étaient en réalité les 9e Jeux de Stoke-Mandeville, du nom de l'hôpital où exerçait le neurologue Ludwig Guttmann, qui créa en 1948 des épreuves sportives pour les anciens combattants devenus paraplégiques. Né en 1899, issu d'un milieu modeste, Ludwig Guttmann s'est hissé dans la société allemande jusqu'à devenir médecin en 1924. Ses premiers stages de médecin se font à Konitz, un hôpital dédié aux accidentés du travail. Autant dire que le handicap arrive très tôt dans sa vie de médecin, tout aussi vite d'ailleurs que la haine antisémite dont il est victime. Et après les lois raciales nazies, le professeur Guttmann, désormais neurologue, est contraint d'exercer dans un hôpital juif. C'est alors qu'en 1939, le dictateur portugais Antonio Salazar a besoin des services de l'éminent docteur Guttmann pour soigner urgemment un ami proche. Le Troisième Reich offre alors un visa à son neurologue juif, qui en profite pour s'enfuir avec sa famille et s'installer en Angleterre. C'est là, au Royaume-Uni, qu'il passe toute la guerre avant de diriger cet hôpital de grands blessés où il décide de mettre ses jeunes patients au sport. Avec une idée en tête, organiser des Jeux mondiaux, des chaises roulantes et des amputés. Après 3 ans d'efforts, Goodman touche au but. Ludwig Goodman savait très bien que des handicapés furent eux aussi la cible du régime nazi. Pas de place pour les faibles ni pour les impotents, avec l'ambition chevillée au corps de prouver le contraire et surtout animée d'une intuition, à savoir que la pratique sportive pourrait régénérer la santé de ces jeunes Anglais mutilés ou paralysés par la mitraille. Porté par ses convictions, le professeur Goodman va changer le regard de la société sur les personnes handicapées. Comme on pouvait s'y attendre, la Chine est la nation dominante et de très loin du handisport, très largement devant le Royaume-Uni et les États-Unis. C'est un système d'État qui organise le handisport. Lors des 5 dernières éditions, la Chine a très largement dominé le classement des médailles. La parasportive la plus médaillée de l'histoire des Jeux paralympiques est la paranageuse Trista Jorn, malvoyante. Elle a participé à 7 éditions et a amassé 55 médailles, dont 41 en or. Chez les hommes, c'est le paratireur suédois Jonas Jakobsson qui en a totalisé le plus avec 30 médailles, dont 17 en or. Et chez les tricolores, c'est la paranageuse Béatrice Hayes. Elle a raflé 20 médailles d'or, 5 d'argent et une de bronze entre 1984 et 2004. En 2021, à Tokyo, la France avait gagné 54 médailles. 11 en or, 15 en argent, 28 en bronze, soit le double du total de Rio 2016. Mais à Paris, la récolte a été fructueuse. 75 médailles, 19 en or, 28 en argent et 28 en bronze, la France se classant 8e au classement général des médailles. La délégation française comptait 236 par athlète, accompagnée de 20 guides issus de 17 comités olympiques. Seulement 81 femmes et 155 hommes. La moyenne d'âge était de 33 ans. L'objectif minimal était déjà frappant pour l'équipe de France de paracyclisme. Son staff avait annoncé la couleur, récolter moins de 20 médailles serait un échec. Leurs coureurs ont dépassé leurs attentes, allant en chercher 28, dont 10 en or, pistes et routes confondues. L'entraîneur Laurent Thérionnet a pu compter sur ses chefs de file Mathieu Boiredon, triple champion paralympique de Heidbake, chrono, course en ligne, relais mixte, ou Alexandre Léauté et ses 4 médailles, dont 2 en or, poursuite et contre la montre sur route en C2, ainsi que sur de belles histoires, comme le premier titre paralympique de Marie Patouillet en poursuite à 36 ans pour ses derniers Jeux. Outre le paracyclisme, il y a eu la paranatation avec Alex Portal et le Toulousain Hugo Didier, le paracanoé Nélia Barbosa, Rémi Boulet, le paratriathlon Alexis Hankincan, le paratennis de table Flora Vautier et le Toulousain Luca Didier, la boccia Aurélie Aubert. Et aussi, et surtout on dira, les sissifouteux qui sont allés décrocher une médaille d'or inespérée 3 ans après la dernière place à Tokyo. Devant l'Argentine et ses joueurs professionnels, et devant le Brésil, en bronze cette fois-ci, après avoir décroché toutes les médailles d'or depuis l'apparition de la discipline au programme paralympique. Dans une ambiance toute particulière, où les encouragements assourdissants du public succédaient au silence de cathédrale nécessaire au bon déroulement du jeu, la foule s'est prise de passion pour le numéro 10 girondin Frédéric Villeroux et ses coéquipiers, jusqu'au bout du suspense et d'une séance de tir au but mémorable. Néanmoins, il y a des déceptions. Au rang des déceptions, l'athlétisme, l'escrime fauteuil ou les sports collectifs, comme le goalball, volley, rugby et basket fauteuil. Dans le milieu paralympique, on l'appelle le Blood Jumper, en référence au film de science-fiction de Ridley Scott, Blade Runner. Marcus Rehm court vite, mais surtout il saute très loin, très haut, très fort, comme la devise olympique Situs, Altius, Fortius. À Londres, en 2012, il découvre Oscar Pistorius, le coureur de 400 mètres sud-africain, lui aussi amputé et lui aussi équipé d'une prothèse aux deux jambes. Son combat commence, il veut concourir avec les valides. Un pari gagné en 2014 au championnat d'Allemagne, Marcus Rehm est devenu à Tokyo champion paralympique du saut en longueur. On retiendra donc Oscar Pistorius, premier athlète médaillé parmi les valides. The Blood Runner, l'homme aux lames, condamné pour le meurtre de sa compagne en 2013. Nantenin Keita a disputé à Paris 2024 son dernier 400 mètres avant de reprendre sa retraite. La porte-drapeau tricolore a terminé seulement sixième. La franco-malienne, malvoyante de naissance, avait remporté à Tokyo 2021 la médaille d'or du 400 mètres dans la catégorie T13. Elle est issue d'une illustre lignée, puisque son père descend de Soundiata Keïta, le fondateur de l'Empire du Mali au XIIIe siècle, lequel fut l'un des plus puissants d'Afrique, réputé jusqu'en Europe pour ses mines d'or. Nantemine Keïta atterrit en Seine-Saint-Denis à l'âge de 2 ans. En 1997, elle est repérée par un professeur de PS. À 40 ans, elle est en équipe de France depuis 25 ans. Comme son père, elle utilise sa notoriété au Mali pour favoriser la scolarité des enfants albinos et combattre les superstitions qui mettent leur vie en péril. Sa médaille d'or à Tokyo a dépassé la distance d'un simple tour de piste. 55 secondes aux 400 mètres, cela vous donne une idée de la course. À un peu plus de 26 km/h, voilà la vitesse de Nantemine Keïta quand elle a remporté la médaille d'or aux Paralympiques de Rio 2016. Il y avait déjà eu 2 en bronze et 1 en argent. Elle court vite, Nantemine. Elle a 40 ans et si elle court aux Paralympiques, c'est parce qu'elle est née albinos. Au-delà de la peau blanche et fragile, une des conséquences de l'albinisme, c'est bien souvent une grande déficience visuelle. Nantemine est malvoyante. Elle est la fille de Salif Keïta, née dans une famille de princes. Lui voulait faire de la musique. Il a été rejeté par sa caste. Aujourd'hui, ses chansons sont écoutées dans le monde entier. Lui aussi est né albinos. Avant de chanter, il a souffert de son handicap. Quand Nantemine, sa petite fille, elle aussi albinos, a eu 2 ans, il l'a envoyée en France. Certains puisent leur émulation dans le souvenir du drame. Ashmat Assiem, le nageur sud-africain, surnommé Shark Boy, l'enfant requin, a survécu à une attaque de grands requins blancs en 2006. Quand il nage, il s'imagine poursuivi par le squale qui lui a arraché la jambe. Jean-Baptiste Alès, champion de son longueur, adopté en France, mais qui représente désormais le Burundi, pays où il est né, pense aux bourreaux qui l'ont coursé quand il avait 3 ans et ont tué sa mère sous ses yeux à la machette. Blessé ce jour-là, il a été amputé de la jambe droite. Le Français Cyril Chaboun, champion de volley assis, s'est reconstruit par le sport et l'amitié. L'ex-militaire a perdu ses 2 jambes dans l'explosion d'un drone en Irak en 2016. Il joue dans un club près de Bordeaux avec Guillaume Ducrot, amputé d'une jambe après avoir été blessé dans la même explosion. Si les primes liées aux médailles, 65 000 euros pour l'or, 25 000 pour l'argent et 15 000 pour le bronze, sont désormais les mêmes pour les athlètes et les para-athlètes, ces derniers, en voie de professionnalisation, courent derrière les financements, car les sponsors ne prolongent pas tous leur amortissement après la compétition.
C'était la chronique de Gilles Labourroir, à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.